OK, donc bonsoir et bienvenue à cet épisode numéro 45 de Ars Macabra. Ce soir, c'est un épisode un peu spécial pour plein de raisons. La première, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas le thème, on n'a pas le thème officiel. Le deuxième, c'est que je suis tout seul ce soir. Valérie est dans sa famille, donc on la salue. Je vais faire l'émission tout seul. On va avoir la chronique de Klimbo un peu plus tard, comme à l'habitude. Puis, pour ce qui est de la chronique bière, ben, c'est moi qui vais faire ça tout seul, comme un grand. Donc, c'est pas mal ça le programme pour asseoir. Je m'excuse en partant, il y a eu une nouvelle console. Ceux qui ont écouté l'antenne un peu depuis le début de la soirée, là, il y a une nouvelle console du nouveau matériel qui a l'air vraiment cool. Mais malheureusement, on n'a pas eu encore toute la formation dessus. Donc, on va essayer de faire pas trop de bévues puis d'essayer de vous donner une bonne émission quand même. Évidemment, on va y aller avec le bon vieux son YouTube pour asseoir parce que on n'a pas le matériel nécessaire pour faire ça comme d'habitude. Donc, il n'y aura aucun thème pour les chroniques et ainsi de suite, sauf que bon, on y va à bonne franquette, on est là quand même. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Puis, dans le fond, pour cette semaine, j'ai décidé de faire quelque chose de particulier. C'est une petite rétrospective, évidemment, comme un peu tout le monde fait dans les émissions ces temps-ci. Rétrospective de l'année, des albums qui ont sorti, des coups de cœur que j'ai eu, des coups de cœur que Klimbo a eu, parce que bon, il y a quelques pièces, c'est lui qui a proposé aussi. Peut-être qu'on viendra avec les coups de cœur de Valérie la semaine prochaine. Fait que c'est un peu la programmation pour asseoir, c'est ça. C'est toutes des tunes qui sont sorties en 2017. Des groupes que moi personnellement j'attendais. Donc c'est tout du métal, mais c'est vraiment varié. Ça va dans du doom metal au folk metal, au death metal. Il y a un peu de tout. Donc j'espère que vous allez aimer ça. La première pièce que je vous ai fait passer, c'était Aeternam, un groupe qui est d'ici, justement, de la ville de Québec. Puis une des raisons particulières du pourquoi je voulais passer cette pièce-là, c'est que oui, d'un, ils ont sorti l'album cette année. De deux, je voudrais remercier Ashraf, qui est un des premiers, justement, ben le premier qui est venu en entrevue. Non, le deuxième, excusez. Il y a Mort qui est venu en premier. Donc, c'est le deuxième qui est venu en entrevue nous voir ici dans les studios. Puis je vais faire un petit clin d'œil à ça. Puis le groupe qui s'en vient, c'est aussi un groupe qu'on avait reçu en entrevue avec Stan Stefanowski, le leader de Star Stangra, qu'on va aller écouter à l'instant. Excellent groupe d'ici. Ça chante en bulgare, on comprend pas nécessairement ce qui se passe, mais musicalement, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis c'est un groupe que personnellement j'aime beaucoup et que je vais continuer à suivre. Je pense qu'il y a vraiment un bon potentiel. Puis si les gars mènent ça de front comme il se doit, je pense qu'ils ont juste du succès à avoir. Donc on va y aller avec ça. Puis ça va être suivi par un autre groupe que j'aime bien puis qu'on a passé à quelques reprises dans l'émission au courant de l'année. Un groupe anglais qui s'appelle Pagan Altar, qui est passé au Wings of Metal Festival à Montréal au mois d'août, si je ne m'abuse, et dont justement le chanteur est décédé, l'album est sorti posthume. Je trouve que c'est vraiment un bon album en tant que fan du band. C'est quelque chose c'est la sauce Pagan Altar, mais avec un son un peu plus actuel, même si l'album a dormi à peu près une dizaine d'années là, dans les boîtes avant d'être mixé et masterisé. Donc on va y aller avec Tsar Stangra, ça va être suivi de Pagan Altar, et ça y va à l'instant. Oh yes, on vient d'entendre Pagan Altar avec Dance of the Vampire, qui est sorti sur l'album The Room of Shadows en 2017. Puis avant ça, vous avez entendu Tsar Stangra avec le nom de l'album en ukrainien, pas en ukrainien, mais en bulgare, que je vais vous épargner la prononciation. Vous allez trouver ça sur Metal Archive très facilement. Je pense qu'il y a aussi une page Facebook et tout autre médias sociaux. Donc, vous pouvez voir aussi le clip officiel sur les bons vieux interwebs. Donc, c'était ça pour ce premier bloc-là. D'habitude, on serait rendu à la chronique bière. Cette semaine, évidemment, c'est impossible pour nos chroniqueurs d'être là. Donc, je suis allé moi-même chercher deux petites bières, puis j'ai pris une nouveauté que je connais pas, que je vais déguster live là, et une valeur sûre que j'aime bien, puis que je veux recommander un peu aux gens, parce que je trouve que c'est un peu peut-être une brasserie qui est méconnue à Québec. Donc, je vais y aller avec la première, ça s'appelle La Patriote. Et oui, ceux qui me connaissent savent que c'est ça, le nom m'a attiré. C'est une IPA blanche de session. Puis ça vient de la microbrasserie de La Fabrique, qui est située à Matane. C'est une bière à 4%, blonde, assez légère. Je suis allé voir le site internet du la microbrasserie de La Fabrique, ça a l'air assez intéressant. J'aimerais ça peut-être aller faire un tour éventuellement l'été, la terrasse a l'air vraiment cool. C'est une bière assez, comment dire, légère. En même temps, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait super bien accompagner un fromage fumé ou un brie, quelque chose dans le genre. Vraiment intéressant. Puis tu sais, le fait justement que le houblon, c'est une IPA, donc le houblon est quand même assez présent. Mais je trouve que le goût de céréales est quand même en avant-plan, avant le houblon, ce qui est quand même particulier pour une IPA blanche de session de ce que moi j'en connais. Donc, je suis assez curieux de voir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir, parce que cette microbrasserie, personnellement, ça a donné que je passe par là une couple d'années, puis ils commençaient, puis c'était pas encore assez rodé, ils mettaient pas en bouteille, on pouvait pas acheter. Puis j'avais pas bu cette bière-là, donc je trouve que c'est une valeur quand même intéressante. Bouteille de 500 ml traditionnelle, puis je pense qu'ils ont quand même quelques sortes, là, de ce que j'ai vu vite, ils ont au moins une dans chaque type, là, dans chaque coulochic. Bon, les professionnels vont créer à l'hérésie là, du classement par couleur, mais pour, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, la blonde, la rousse, la noire, ils ont un peu de tout. Donc, petite brasserie que je recommande, super bonne. Puis, on va y aller avec la deuxième. La deuxième, c'est une autre microbrasserie qui est un petit peu méconnue, qui est très, très connue en Abitibi, parce qu'évidemment, ça vient de là-bas. C'est une brasserie qui vient de Rouyn-Noranda, qui s'appelle le Trèfle Noir. C'est un petit pub, un peu comme on est ici à Québec, dans le fond. Puis, qui roule quand même, ça fait quand même un petit bout, là. Ça doit faire un 6-7 ans au moins, qu'ils mettent en bouteille, du moins, puis qu'ils ont sorti vraiment des produits intéressants, là. Il y avait une double belge, excusez, qui s'appelait la Hurlevent, qui était très, très bonne. Il y a aussi la Tcherno Pivo, si vous pouvez mettre la main là-dessus, là, c'est une stout. Il y a aussi la stout vieillie en fût de Bourbon, qui est vraiment excellente, une version un peu comme ce qu'on appelle les stouts impériales russes. Puis c'est là que j'ai décidé de vous présenter à soir. Elle s'appelle la Auburn Evil, qui se trouve à être une Scotch Ale, une Wee Heavy, pour ceux qui connaissent un peu plus le type. Puis c'est une bière qui est un peu plus fumée, un petit peu plus... le goût caramélisé, surtout en avant-plan. Une petite finale un peu fumée, c'est super bon, c'est quelque chose qui se prend, ça accompagne facilement une viande rouge ou, tu sais, ceux qui trippent bien viande de cerf, viande d'orignal, je trouve que ça fait un super bon mariage. Ou simplement aussi des saucisses épicées comme, y en a plusieurs, là, dont Sochaux, le saucissier pour ceux qui sont à Québec. Je pense que c'est quelque chose qui se marie très bien avec ça, puis c'est rond en bouche, puis ça n'a pas trop l'arrière-goût est quand même pas trop présent, pas trop longtemps. C'est vraiment bien balancé. Coup de cœur de moi-même. Puis je vous la recommande. À vrai dire, je vous recommande un peu tous les produits de cette brasserie-là parce que je trouve qu'ils vont tout le temps chercher un petit quelque chose de particulier, même dans les recettes les plus simples. Ils ont un petit quelque chose qui se démarque des autres compagnies. Puis c'est tout à leur avantage parce que bon, ceux qui écoutent un peu l'émission à toutes les semaines savent que il y a tellement une grosse compétition dans le moment. Au Québec, dans le milieu de la microbrasserie, il y a une explosion du nombre de microbrasseries. Puis, au final, c'est sûr que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un choix, puis il y a une diversité pour les clients. Sauf qu'en même temps, ça fait aussi en sorte qu'il y a une certaine, à mon avis, une certaine sélection naturelle qui va se faire sur le temps. Puis, je pense que la microbrasserie du Trèfle Noir, c'est une microbrasserie qui est là pour rester, sérieux. Ils font vraiment des bons produits, c'est bien implanté dans leur coin de pays, puis ils vendent un peu partout. Je pense que, en tout cas, j'en ai vu dans le bas du fleuve aussi, fait que je pense que c'est un peu accessible partout, là. Si vous pouvez mettre la main là-dessus, ça vaut vraiment la peine. Puis les prix sont aussi intéressants. Puis même chose pour les bières de la Fabrique que j'ai vues cet après-midi. Microbrasserie de la Fabrique de Matane. C'est quand même, on parle de entre 5 et 6 $ la 500 ml, ce qui est quand même très raisonnable. Évidemment, c'est sûr que si vous allez chercher la Tchernopivo vieillie en fût de chêne, c'est un peu plus cher. Sauf que, bon, comme n'importe quoi, la qualité a un certain prix à un moment donné. Donc, sur ça, je vais boire à votre santé. Puis, on va y aller avec une petite toune, justement, de bière. C'est pas de quoi qu'on passe d'habitude. C'est pas le genre de musique qu'on passe non plus dans l'émission. Sauf que je trouvais que ça se prêtait un peu. Puis, c'est un band que j'aime bien, que j'écoute. Comment je pourrais dire? C'est pas un groupe que j'écoute régulièrement. Mais c'est un groupe que j'aime bien leur carrière, puis j'aime le côté un peu de pas se prendre au sérieux de ce groupe-là. Tu sais, c'est Hail of Storm, qui est un groupe, je crois que ça vient d'Écosse, qui font eux ce qu'ils appellent du pirate metal, qui est quand même assez intéressant. Puis il y a toujours, il y a plein de tonnes de bière là-dedans, puis c'est très, très festif, ce qui fait vraiment contraste avec ce qu'on passe d'habitude dans l'émission. Donc je trouvais que c'était un clash intéressant. Puis ils ont sorti un nouvel album cette année qui s'appelle No Grave But The Sea, qui, dans son genre, est quand même... C'est pas de quoi qu'il se démarque, mais ça respecte la recette, là. Tu sais, pour... moi, je suis plus un peu dans le black metal, tu sais. Il y a certains codes que, si tu respectes ça, t'es dans les balises du genre. Je trouve que Hail of Storm, dans le genre de metal qu'ils font, c'est un peu... c'est ça, ils respectent les limites de leur style. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi une recette, un peu la recette de leur succès, ça, et la guitare-clavier, évidemment. Donc, on va y aller avec une pièce qui s'appelle « Man the Pump ». Puis ça va être suivi d'un autre, comme je vous disais en début d'émission, là, ça tire un peu partout dans les styles parce que je suis vraiment allé avec 2017, du métal. Puis c'est ça, l'autre groupe après, ça va être Samael, Black Supremacy, qui est sorti sur l'album Hégémonie. Samael, qui est un groupe de black metal à l'époque de Suisse et qui s'est un peu recyclé dans ce qu'on pourrait peut-être appeler le métal indus. Dans ces tangentes-là. Je ne suis pas assez connaisseur en métal indus, fait que je pourrais pas vous dire les sous-genres, mais un peu dans ce genre-là. Mais c'est un band, je trouve, qui a pris un tournant puis qui a vraiment assumé son tournant puis qui a le comment je pourrais dire... il assume carrément ce tournant-là, puis je pense que ça fait en sorte que le groupe a vraiment produit quelque chose qui est différent de d'autres groupes du même style. Puis juste pour ça, c'est vraiment intéressant à entendre, puis de voir un peu l'évolution du band, c'est quelque chose à chaque fois qui me laisse un peu... pantois, parce qu'il aurait pu prendre plein de directions, puis ils en ont pris une qui est un peu inattendue par les fans, puis je pense qu'au final, sur le long terme, c'est quelque chose qui était payant pour eux, donc on va y aller avec celle-là ensuite, puis je vais vous revenir, il va y avoir une autre pièce, puis je vous reviens après ça, donc on y va à l'instant avec Hail of Storm, Man the Pump. We'll be right back. Et vous êtes de retour à Ars Macabra. On vient d'entendre Portrait, groupe, je crois que c'est suédois, groupe de un peu dans l'influence du old school heavy metal, avec l'album Martyr. Donc, là, je pense que c'est le moment. On va faire un test, on verra qu'est-ce que ça donne, mais je m'annonce pareil. Salut, chef. Comment ça va? Klimbo? OK, on teste. Es-tu là? OK, donc je crois qu'on a perdu Klimbo pour asseoir. Écoutez, ce que je vais faire, on va faire un test à l'instant. On va y aller avec une toune, c'est justement une demande spéciale de Klimbo. Je vais faire jouer cette pièce-là, je refais des tests. Puis on revient en studio après. La pièce, c'est le groupe, c'est Blood Us North. Puis la pièce s'appelle Korea Macabeorum. Excusez pour mon latin. Donc on y va à l'instant avec ça et on vous revient. OK, donc on est de retour. Et prise 2 avec Klimbo. On va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que t'es là, Klimbo?
Oui, je suis là.
Oh yeah, là ça fonctionne.
Salut ça. Mon beau Kevin McAllister. Je peux t'appeler comme ça vu que c'est le temps des fêtes.
Ah, c'est correct pour là. J'ai vu aussi au Malone que ça joue à télé. Je me suis dit que c'est le film parfait pour justement le temps des fêtes.
C'est le film parfait pour le temps des fêtes. Puis écoute, un peu comme ce qui se passe à Ciné-Cadeau, c'est des affaires qu'on s'écœure pas. J'ai encore regardé les 12 travaux d'Astérix tout à l'heure. Mm-hmm. Puis je me disais, écoute, ça doit faire au moins 50 fois que je le vois. Je connais les répliques par cœur, mais à chaque fois, je me bidonne.
Ouais, ouais, ouais. Ah oui, il y a des classiques comme ça.
Ah, écoute.
Toi, en plus, t'as deux enfants, hein?
Oui.
Ouais, c'est quelque chose à transmettre aux enfants, Astérix.
Exact. Tu sais, je revis mon enfance avec eux autres, puis même ma fille a 9 ans et demi, mon gars a 8, puis ils connaissent déjà les répliques par cœur. Ça prouve que ça te reste imbriqué dans le cerveau, puis pas à peu près, ça.
Ben oui, ben oui. Ah, ben c'est excellent, yeah. Ça. Donc, premièrement, je vais dire un gros merci parce que je suis quand même conscient qu'on est le 26 décembre. Là.
Exactement.
Qu'il y a peut-être moins de monde un peu à l'écoute, que le monde soit dans leur famille.
Ouais.
Mais bon, moi, personnellement, je t'allais passer du temps dans ma famille, puis j'étais de retour, puis je me suis dit, tant qu'à être là, puis c'est sûr, je suis là. Puis je suis content parce que quand je t'ai proposé l'idée, tu m'as lâché la réflexion, t'es le genre de mon oncle qui va être là, toi aussi.
Donc,
on est là pour garder le fort en attendant.
Écoute, moi là, c'est hier, j'étais à Trois-Rivières dans ma famille, ben la famille du côté de mon épouse, il y avait de la Boréale, IPA du Nord-Est.
Ben oui,
j'ai dû m'enclencher minimum 8. J'étais tellement content.
C'est bon. En disant aussi, on l'échappait un peu jusqu'à peut-être 4 heures du matin.
Ouais, c'est pas pris une doute. Ben, c'est parce que ma blonde travaille demain matin. Fait qu'hier, on a pris ça mollo pas mal. T'sais, on avait le transport tout. Puis non, ma blonde sentait que l'appel du boulot là, de demain matin, là, ça s'en venait assez rapidement. Fait que, ouais, là, elle est couchée. Puis moi, je bois encore de bière.
Je compétis avec elle, je travaille à 8 heures demain. Mais ça, c'est une histoire.
Oh. Ouais.
Mais bon, c'est pas grave, j'ai eu quand même des congés, j'ai pu en profiter, je suis bien content.
Ouais.
Ben, c'est ça, me voici à soir. Là, je vais t'avouer que, comme j'ai dit en début d'émission, on a du nouveau stock ici, puis tout. Je me souviens plus de tes sujets, fait que je vais te laisser y aller on the go, ben, puis je te suis.
Écoute, moi, je vais profiter de l'occasion, justement, pour... écoute, t'avais lancé cet après-midi, rétrospective de 2017, fait que je vais y aller avec ça, des événements qui ont marqué,
okay.
Des événements aussi, plutôt des annonces qui ont été faites, qui risquent de nous marquer solidement, puis j'ai pas le choix d'en parler tout de suite, parce que, étant donné que c'est sorti peut-être jeudi ou vendredi, en plein congé de Noël, il y en a qui n'ont peut-être pas entendu parler, tu sais, même Music Universe n'ont pas parlé.
Okay.
Je te parle de l'annonce du Québec Death Fest.
Oui,
ou le
oui,
Québec Death Fest.
Oui, oui, j'ai vu ça passer.
Écoute, c'est très, très simple. Le Maryland Death Fest, qui organise déjà le California Death Fest et le Netherland Death Fest, ont décidé d'étendre leurs tentacules jusqu'au Québec, le bastion fort du death metal et du metal en général.
Mm-hmm.
Et là, ben, t'as quelques personnes qui disaient « Pourquoi vous appelez pas ça Montréal Death Fest, vu que ça va se passer à Montréal, ça n'a pas rapport. » Et le but, ben justement, c'est d'utiliser le nom de la province et non pas le nom de la ville, parce que Maryland, c'est l'État, ça se passe à Baltimore, Californie, la même affaire. Et ça va se dérouler à Montréal. À quel endroit, on le sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura beaucoup plus de détails après la période des fêtes. Mais, en fin finaux que je suis, j'espère qu'on a au moins 3-4 personnes qui nous écoutent à soir, Kevin, parce que là, j'ai un petit peu, comment je te dirais ça, un petit scoop.
OK, vas-y. Ben, au pire, c'est pas grave, s'ils écoutent pas là, on postera ça sur la page Facebook.
Ouais, exact. Ben, c'est assez simple. Là, justement, dans mes groupes de poilus, là, le monde disait « Qui va être le promoteur local? » Parce qu'en tant que tel, le Maryland Death Fest, c'est une organisation. T'as genre 2-3 gars là-dedans, c'est des têtes pensantes. Puis eux autres, étant donné qu'ils étendent leurs tentacules, s'ils ont besoin, en gros, là, c'est d'une équipe sur place, comme à Montréal, qui vont trouver des salles, qui vont trouver un emplacement ou des emplacements, qui vont gérer toute la vente de billets, la publicité. Fait qu'eux autres, l'organisme du Maryland Dead Fest, ce qu'ils font, là, c'est nous autres, on fait le booking, vous autres, vous vous arrangez pour que les salles de spectacle soient réservées, que la vente de billets se fasse. Okay. Et l'organisation qui va s'en occuper, je crois, devrait aussi s'occuper du booking régional, c'est-à-dire les bands locaux qui vont devoir, ben, qui vont pouvoir, en fin de compte, jouer lors de la première édition du Quebec Dead Fest du 19-20 octobre, ben, ça va être, autrement dit, engagé par l'organisation locale avec l'approbation des gars du Maryland Dead Fest. Mm-hmm. Et ce qui arrive, là, t'as du monde qui se demandait, ah, ça va être Dungeon Words, ça va être Extensive, ça va être Tilticoon. Puis là, t'as du monde qui disait, j'espère que ce sera pas Evenco, ils connaissent rien. Mais là, quand tu fais 1 plus 1 égale 2, tu comprends. Mm-hmm. Cette année, au Maryland Dead Fest, t'as le groupe Bloodbath qui vient de jouer à Montréal. Bloodbath, c'est une exclusivité pour le festival. Et l'organisation ont décidé de faire une mini-tournée avec Bloodbath. Et ils viennent jouer à Montréal. C'est produit par Evenco. Ça va être au Corona. Fait qu'il faut pratiquement voir ça comme étant un test. Autrement dit, bon, ben, guys, on vous envoie un ben, on va voir comment ça fonctionne. Puis si ça fait notre affaire, on va faire affaire avec vous. Et quand le Quebec Dead Fest a été annoncé, 2 jours plus tard, Evenco, sur la page du UEV Montréal sur Facebook, disait on ajoutait l'image avec une petite notice en bas, très intéressant. C'était ça le commentaire. Donc, je peux pratiquement te confirmer à 99,9% que c'est Evenco qui va s'occuper de l'organisation du festival pour la ville de Montréal, c'est-à-dire s'occuper de la logistique, mais aucunement de ce que l'on appelle le booking, c'est-à-dire d'engager, de monter la feuille de programmation au niveau international. Fait que ce serait beaucoup plus au niveau de la logistique et probablement même au niveau de ce qu'on appelle le booking dit régional. Là, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu partes en fou puis que tu envoies un courriel à Evenco en disant « Mon Ben veut jouer ». Non, il faut que tu attendes en fin de compte. Après la période des fêtes, il va sûrement y avoir plus de détails.
C'est ça. Mais à vrai dire, si tu envoies un courriel pour dire que tu es à genoux, la bouche grande ouverte, probablement que tu vas finir comme la petite grosse au bord à 3 heures, c'est-à-dire tout seul.
Exactement. C'est... Ou avec un gars très douteux.
Oh, ouais, j'ai jamais, non. Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais non.
Seulement, c'est un gars douteux un peu. Là.
Ouais, j'avoue. Mais moi, il y a quelque chose, j'ai entendu parler par rapport à ça, puis c'est un point qui a été soulevé, puis sur le coup, j'ai pas allumé parce que je savais pas les dates, mais de ce que j'en comprends, c'est le festival, il va avoir lieu à peu près juste entre le Festival de la Messe des Morts à Montréal puis le Consider Dead ici à Québec.
Exact.
Ben moi, les commentaires que j'ai entendus là-dessus, c'est que c'était un peu... essayer un peu de tirer... Ben, tu sais... pas tirer dans le pied, là, mais c'est en faisant une compétition comme ça, je pense, tu sais, tu as 3 gros festivals en même temps, ça va-tu être si bénéfique, ça va-tu être, tu sais, je sais pas si eux veulent, j'imagine qu'ils veulent que ça soit rentable, personne ne veut faire du trou, mais ça va-tu être si rentable que ça, le choix de la date me semble un peu, avec du recul, me semble un peu louche, là.
Ben, tu sais, on s'entend que c'est 2 semaines avant, environ 2 à 3 semaines avant la Messe des Morts. Mm-hmm. Mais Messe des Morts, déjà sa niche, le branding est fait. Je pense pas que ça va les affecter en tant que tel. C'est probablement plus Consider Dead qui risque. Écoute, parce que là, à un moment donné, là, quand tu vas obtenir des exclusivités, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Mettons, t'as le groupe. On va prendre par exemple Morbid Angel, qui se font. Par Consider Dead et par MDF qui va travailler pour Quebec Dead Fest. Probablement que Quebec Dead Fest vont aligner une coupole de bruns additionnels, ce qui va faire pencher la balance assez solidement. Fait que ça, j'avoue que question logistique à ce niveau-là, ça va peut-être créer un léger combat, une petite guéguerre entre les deux.
En tout cas, je sais pas, je peux pas dire, là, je connais ni l'opinion de je connais l'opinion d'aucune des organisations par rapport à ça, mais ouais. Là, c'est le point qui a été soulevé en jasant avec une couple de personnes, tu sais, c'est
ouais.
le point que ça arrive carrément entre les deux festivals. Déjà que les deux festivals sont quand même proches, mais le fait qu'ils soient un à Québec, un à Montréal, bon, il y a certains... moi, pour être allé au Consider Dead, il y avait beaucoup de monde de Montréal quand même qui ont fait la
oh,
route
oui.
pour ça. Fait que tu sais, je me dis, c'est-tu des gens qui vont décider de rester à Montréal pour aller au nouveau festival qui va aller...
Oh, ouais.
En tout cas, il reste mais... que le budget sorti, il est limité pour tout le monde de nos jours. Puis quand tu as acheté une passe de festival qui vaut 100$, ton 100$, c'est sûr que tu vas checker la programmation avant de l'investir. Tu sais.
Ouais, mais ce serait vraiment dommage pour Consider Dead. On s'entend que cette année, ça n'a pas été évident. Je pense le même. Il y a un des soirs, tu avais Obituary avec Exodus, qui était à Québec aussi.
Mm-hmm.
Puis à Montréal, en même temps, on avait Sacred Reich. Je veux pas. Moi, j'avais Sacred Reich à Montréal. Sinon, je m'enlignais à Québec pour essayer de voir les deux shows parce que, écoute, c'était quand même une astuce de belle carte pour Québec. Ouais. Là.
Mais ça, par contre, il faut lever le chapeau à Consider Dead. Là, ce que les gars ont fait, c'est que les gens qui avaient le billet pour Obituary allaient sur place après. Puis je pense que ça coûtait, c'était 5 ou 10 piastres pour rentrer. Là. Si tu voulais aller voir le deuxième, mettons, tu voulais aller te taper un deuxième show après, là,
ou
tu avais vraiment un rabais, si tu avais ta preuve que tu étais à l'autre show, tu avais vraiment une entrée quasiment gratis. Là.
Mm-hmm.
Fait que ça, là-dessus, je dois dire que les gars, ils ont bien réchappé la situation, mais bon, en tout cas, moi, c'est le point qui a été soulevé, tu sais, je lance ça, tu sais. On verra qu'est-ce qu'il arrivera, évidemment. C'est d'un point de vue capitaliste sauvage, tu sais, au plus fort la poche, là. Sauf qu'il y a aussi une question de conviction puis de pourquoi tu le fais. T'sais, dans ce milieu-là, le spirit est important. En tout cas, moi, dans mon milieu du black metal, le spirit est important. Puis ceux qui le respectent pas, ben d'habitude, tu ne fais pas affaire avec eux autres. Fait, je ne sais pas comment ça va être managé. Ça reste à voir. Mais en tout cas, ça reste à suivre. Ça reste à suivre.
Ça reste à suivre, mais je m'inquiète pas pour la messe des morts, par exemple. Ça, c'est coulé dans le béton, ça.
Oui, ben il y a quand même... Ça, c'est vrai qu'il y a vraiment... Il y a son public, c'est vraiment, c'est plus niché un peu.
Ouais.
Sauf que bon, ça fait quand même une certaine compétition, puis c'est quand même des gros chiffres, là, organiser ça. On parle pas d'une couple de 1000 piastres, là.
Non.
C'est le genre d'affaire qui peut te mettre dans la rue si une année ça foire, là.
Exact. Martin est rendu dans la grosse ligue, là.
On verra que
c'est
ça
donne. Stock. Mais bon. Ouais.
Excellent. Donc, puis t'avais-tu un autre sujet que tu voulais nous jaser?
Ben écoute, étant donné qu'on est en pleine fin de 2017, j'aimerais retourner sur certains sujets qui ont marqué l'année, certains albums, certains spectacles. Premièrement, je sais que c'est pas tes préférés, les beaux garçons de Ghost,
non.
Mais écoute, on a appris cette semaine qu'ils vont headliner une des scènes du Wacken Open Air 2018. Qui est quand même pas peu dire.
Oui. Ben, personnellement, c'est pas un groupe que j'apprécie vraiment, mais je comprends qu'il y a un certain. Il y a un public pour ça, là. Moi, je suis pas le public cible, mais je comprends qu'il y a du monde qui trippe là-dessus, puis je pense que c'est un succès qui est quand même amplement mérité, là. Il y a vraiment des bons commentaires à propos d'eux, puis ça fait quand même un bout qui roule leur boss.
Oui. Puis, malgré le fait que cette année, on entendait parler du groupe beaucoup plus pour les poursuites au niveau face à Tobias Forge, qui est la tête pensante, les anciens musiciens qui voulaient avoir sa tête en fin de compte parce qu'ils disaient qu'ils voulaient avoir leur partie de redevance, qu'ils leur devaient de l'argent, puis que Tobias était en fin de compte un véritable dictateur. Puis tu voyais passer sur Internet là, des pages de procès traduits. C'était en suédois, fait que c'était incompréhensible pour le commun des mortels.
Mm-hmm.
Fait que le groupe, en fin de compte, cette année, c'était des poursuites et bien sûr le dévoilement des visages. Là, qu'on a enfin compris que c'était Tobias Forge, puis qu'on a vu que c'était des membres de Subvision, son ancien band. Fait que sans grande surprise, on a appris c'était qui. Puis moi, dans ma tête, je me disais, est-ce que ça va tuer un peu la magie? Puis là, je repensais à Kiss à l'époque, Lick It Up. Puis je me suis dit, ben non, ceux qui aimaient ça vont continuer à aimer ça.
Ouais. Voyons donc. Ouais. Ils ont quand même. C'est ça, ils ont leur son, ils ont leur public, puis c'est grand bien leur face. Tant mieux pour eux, là. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant sur un CV de Ben aussi.
Ben oui, voyons donc.
Mais bon, je savais pas qu'il était en procès, par contre, mais tu vois, tu m'en apprends une. Mais suivant Paul Ben, c'est le genre d'affaires que je savais pas.
Ben, c'est ça, c'est le genre d'affaires qui passe sous le nez à 100 000 à l'heure.
C'est des potins de fans.
Toujours des potins, yes. J'en ai plein.
Good. Yeah.
Hey, il faut quand même parler des grands disparus de 2017.
Oui,
puis,
oui.
Là, ben, tu sais, c'est sûr, je vais pas toutes les énumérer, mais plus précisément, je vais y aller avec Chris Cornell, mm-hmm. Qui était le chanteur de Soundgarden, qui s'est enlevé la vie de façon assez brutale. Hein?
Ouais, ouais. Ouais, c'est au mois de mai, hein, ça?
Exactement, au mois de mai. Puis son bon ami, ensuite, Chester Bennington de Linkin Park, qui décide d'y aller de façon un peu similaire.
Mm-hmm.
Ouais, mais ça a été tellement médiatisé que j'aimerais peut-être plus y aller avec deux personnes. C'était moins médiatisé au niveau grand public, c'est-à-dire Martin Eric Ain de Celtic Frost,
mm-hmm.
et tout dernièrement Warrell Dane, qui était le chanteur de Sanctuary et de Nevermore. Nevermore, oui, oui. Un des groupes que j'ai vu le plus souvent dans ma vie en spectacle, sans vouloir les voir. Je sais pas si tu me suis.
C'était
le band qui était tout le temps en ouverture au début des années 2000. C'était rendu une astuce running. C'était un running gag.
Okay.
Et là, tes chums t'écrivaient, hey man, il y a Ice Earth qui vient au Fouf, y vas-tu? Ah oui, j'imagine que Nevermore est en ouverture. Effectivement, c'était rendu ça.
Ouais, OK.
Il jouait avec n'importe qui. Là. Il ouvrait pour Dimmu Borgir. Un mois après, c'était en ouverture de Children of Bodom. Ensuite, tu avais en ouverture de n'importe quel Christy Ben avec In Flame, peu importe. Fait que le bon Warrell Dane avec son chapeau de cowboy, là, je l'ai vu souvent. Quelle voix!
Oui, oui. Et par contre, il y a une affaire. Tu sais, quand tu prends beaucoup de contrats comme ça, dans un court laps de temps, j'ai l'impression un peu, je sais pas si ça tanne les fans, tu sais, il y a les die-hard là, qui vont venir à tous les spectacles, là, mais je sais pas, quelque part, il y a peut-être un peu une réflexion de « Ah, je vais venir, de toute façon, ils vont jouer la prochaine fois, je vais aller voir une prochaine fois, tu sais, puis ça finit, tu y vas jamais, là. »
Ben, ça vient que c'est dilué. Ben, tu dois te souvenir du groupe Blackguard de Montréal.
Oui, oui.
Ben, Blackguard, c'est ce qui est arrivé peut-être un peu avec le band, là. Justement, l'environ 6-7 ans, là,
mm-hmm.
mettons, entre 2010 et 2015, le groupe se ramassait sur de nombreuses tournées. Fait que quand tu voyais là, que, mettons, tu étais rendu au mois de novembre, tu les avais vus en février, en mars, en mai, en juillet, puis qu'ils ouvraient pour, je sais pas moi, Deicide, tu disais, ouais, ben c'est Blackguard en ouverture, on va arriver plus tard, on les a vus déjà 4 fois.
Ouais, exact.
T'sais, le produit devient dilué. C'est le fun, c'est cool que tu te retrouves sur toutes les tournées, ça élargit ton public. Sauf que ceux qui t'ont vu à 4 reprises, ça se peut que justement, ils décident de péter le billet plus longtemps au Fouf avant d'aller te voir au Café Campus.
Hein. Ouais. Ben, dans un contexte comme ça, je pense que le point le plus positif, c'est vraiment pour le band. Le fait que tu fais des shows comme ça, tu en fais beaucoup dans un court laps de temps. Tu sais, t'as beau pratiquer, la musique a ça de... Autant c'est un gun sur la tempe, autant c'est justement quand tu le réussis, t'es content, t'es fier de toi. T'as beau pratiquer 2000 fois ta tune en local, chaque fois que t'es sur le stage, t'as un gun sur la tempe.
Ouais, hein.
Tu sais, puis le fait de faire beaucoup de spectacles, de jouer souvent, régulièrement dans des plus gros festivals pis ces choses-là, ça te permet d'acquérir une certaine expérience que tu n'auras jamais dans ton local, quand même que tu pratiques comme un malade à tous les jours, tu sais. Mais c'est ça, le point positif là-dedans, c'est vraiment pour le band, c'est l'expérience de groupe, la chimie de groupe qui va se souder. Mais pour le public, à quelque part, je me souviens d'un band à Québec que je nommerais pas, mais qui jouait, qui prenait un peu justement à un certain moment tous les shows.
Ouais.
Il jouait carrément. Il y a un moment donné, c'était un running gag, là, c'était une fois ou deux mois, là. Je me rappelle des avoir croisés à un moment donné, je dis là, les gars, sérieux, j'adore votre musique, là, mais je ne vais plus vous voir parce que j'attends un nouveau CD. Là, c'est vous jouez tout le temps. Là. Mais c'est à quelque part, c'est le même setlist. Je sais pas, Nevermore, c'était un peu ça aussi.
Ben, c'était pas mal ça, écoute. Puis en passant le bel que tu parles, est-ce que les initiales seraient BBF?
Non.
Non, c'est pas Blinded by the Faith.
Non, c'est pas eux autres, non.
Ah, c'est pas pire. C'est correct.
Mais j'en dirai pas plus.
Non, c'est bon.
Ils se connaissent. Anyway, je te dis ça, puis regarde, on en a déjà parlé en personne, là.
Ouais, ils
savent très bien mon opinion là-dessus, fait que je suis pas trop... Je suis pas gêné d'en parler, même si je dis pas c'est qui. Ils se sentiront pas visés, ils se sentiront pas humiliés ou quelques ressentiments négatifs par rapport à ça.
Ben non.
Mais
c'est bien correct.
Mais c'est ça, pour le public, je trouve que c'est un peu... Tu perds un peu de l'intérêt parce que justement, tu dis, bon, ben je vais attendre qu'il y ait du nouveau stock, des nouvelles un nouvel album, tu sais.
Ouais, c'est un peu moins sexy, là, je l'avoue.
Ouais,
là.
Ouais.
C'est pas comme voir ta blonde tout nia tous les jours. Ça, tu t'écœures pas, là.
Non, ça, c'est sûr. Mais il y a aussi le fait que faut dire que j'ai vu beaucoup, beaucoup de posts par rapport justement au chanteur de Nevermore. Puis c'est le batteur de voyons. J'ai la mort, c'est pas ça. Là. L'autre qui est décédé.
Martin Eric
Ames. Oui, exact.
Ouais, le bassiste des Celtic Frost.
Oui, exact, le bassiste. J'ai vu ça passer beaucoup sur Internet. Les posts, ça n'arrêtait plus. Fait, c'est il y a le côté un peu morbide que tu as plein de gens qui découvrent le band parce que la personne meurt.
Ben oui, un classique.
Ça, c'est un classique aussi, là.
Ben oui.
Je me rappelle tous les nouveaux fans de Lemmy, là.
Ben oui.
ça, c'est quelque chose. En tout cas, c'est d'autres choses.
Ah oui. Yeah, et puis, moi, ce que j'aimais, là, ben, je veux dire, ce que je trouvais un peu ridicule, là, c'est quand Lemmy est mort, là, puis tout d'un coup, là, moi, dans mon fil Facebook, j'avais du monde vraiment random, là. Tu sais, là, qui sont allés chercher probablement un T-shirt chez H&M ou Ardennes.
Ouais.
Ils sont allés s'acheter une bouteille de Jack à SAQ pour se faire un montage photo. Mm-hmm. Rip Lemmy, hey, salut. Écoute du Linkin Park, mon chum, là, ça marche pas, là.
Je veux des likes sur mon compte Instagram.
Exactement.
Oh, je vois le genre. J'ai vu un peu la même affaire.
Eh oui, embarquons dans la vague. Mais... Embarquons dans la vague.
Sinon, en terminant, je te demanderais ton coup de cœur en termes de spectacle auquel tu as assisté, parce que pour les auditeurs là, qui sont pas au courant, Klimbo est un gars qui... Tu dois voir un minimum 2 spectacles par semaine, toi.
Écoute, il y a des semaines, c'est entre 2 et 3, mais généralement, là, je te dirais que c'est 1 par semaine tout au long de l'année. Là.
Okay.
Je faisais mon décompte, justement, puis je pense cette année. Puis là, quand je parle de spectacle, là, je veux dire, mettons, un festival, c'est un spectacle pour moi.
Oui, je comprends. Mais c'est ça, toi, t'es... Ben, en tout cas, t'es une des personnes que je connais qui a vu le plus de shows dans sa vie, là.
Fait ouais.
Que, j'imagine que ton... C'est dur à choisir, ton numéro un dans tout ça.
Ah non, 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 j'ai eu aucune difficulté.
Ah, ouais?
Non, aucune difficulté.
Okay.
Et je suis... Quand j'ai été sur mon compte setlist.fm, là,
mm-hmm.
tu peux faire, autrement dit, toutes les shows auxquelles tu as assisté, puis ça te donne le nombre de fois que tu as vu tel ou tel groupe.
Okay.
Et le groupe que j'ai vu le plus souvent en show dans ma vie, à égalité, c'est Voivod avec Anthrax. Et cette année, en 2017, je peux te confirmer que le meilleur show que j'ai vu, c'est Voivod au Catacombes pour le Wings of Metal.
Oui, je me rappelle que tu en as parlé justement dans ta chronique la semaine après.
Hey man, ça là, c'était, puis là, c'est comme bizarre ce que je vais dire, puis je me semble que je l'avais dit aussi, là. C'était le meilleur show de Voivod que j'ai vu, et ça n'enlève rien à Piggy, là.
Oui,
mais, oui. Tu sais là, tu parlais tout à l'heure qu'un groupe qui fait des shows, puis qui devient de plus en plus tight, Voivod, là, c'est une machine qui roule à fond de train depuis les dernières années, là, avec le genre de retour du métal de la vieille école.
Mm-hmm.
Puis Voivod, là, c'est une machine. Ils jouent au Catacombes, ils font des tunes qu'ils n'ont pas joué depuis des années. C'était fantastique. C'était retour aux vieux amours, mais en même temps, tu sens que ça s'est jamais estompé. La fierté régionale boostée au maximum. C'est là un sentiment de communion, autant avec le groupe qu'avec les gens dans la salle. On sentait que tout le monde qui était là, t'avais pas de WRE, là. Le monde qui était là, c'est parce que, pour eux autres, Warren Payne, Banzai en vinyle, ils l'ont là depuis 28 ans dans leur collection, puis ils sentent l'humidité, mais ils l'écoutent encore régulièrement. C'est une soirée de la vieille école.
Excellent. Ah, mais ben,
yes.
Excellent, ça. Ben, écoute, je te remercie. On a un peu défoncé notre temps, mais on s'en fout, ça valait la peine.
Écoute, ça vaut la peine, ça vaut tout le temps la peine. On est comme les deux JMP du métal, on défonce.
Yeah. Ben oui.
Je lâche mes lumières, là.
Je pense que je vais défoncer une couple de tonnes. On verra ça à soir tantôt. Là. Il reste un 10 minutes, mais j'ai plus de tonnes que ça. Fait que je pense que je vais défoncer.
Défonce. De toute façon, c'est qui après toi? Les amateurs de sport?
Non, c'est Amine. Amine qui fait une émission plus, comment je pourrais dire, reggae. Mais
ah ouais?
C'est du beat reggae africain. Ça fait vraiment un clash avec notre émission, mais je sais pas s'il va être là aujourd'hui, donc on défoncera, puis quand ils arriveront, on s'organisera.
Écoute bien, là, c'est pas des fêtes.
Excellent. Fait que sur ça, on s'en va avec ta demande spéciale de Nocturnal Hollows.
Eh oui, excellent groupe du death metal suédois fabriqué au Venezuela. Fantastique.
Good. Fait que sur ça, on te dit à la semaine prochaine, puis nous autres, on y va en musique à l'instant.
Salut, bye.
Salut.
Yeah.
Et on est de retour pour le dernier bloc. On va y aller. Oui, le petit jingle. Donc, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Pour ceux qui écoutent un peu l'émission régulièrement, vous savez sûrement que c'est le bout que j'aille faire les annonces de show. Mais cette semaine, je me suis permis quand même de le faire parce que je trouve que c'est un show qui vaut vraiment la peine d'être annoncé. Puis c'est des bons gens qui sont aussi venus nous voir en studio, entre autres, qui vont jouer. Ça se passe le 30 décembre, c'est-à-dire samedi prochain, à l'Anti, ici à Québec. Il va y avoir Saccage. Outre-tombe, qui est un peu plus dans le death, Saccage, qui est plus dans le black crust punk un peu, Dépérir, puis Deadbringer, c'est à l'Anti, samedi, ça commence à 7h, question de faire un genre de party jour de l'an avec entre métalleux, je pense que c'est une bonne alternative, puis j'espère que vous allez être nombreux, là. Moi, il y a des très très fortes chances que j'aille faire mon tour aussi, donc un petit clin d'œil à la gang de Saccage, puis justement, en espérant que que le show fonctionne. Parce que je trouve que c'est un peu un coup de dé aussi de faire un show en fin d'année comme ça, un 30 décembre. J'espère pour eux autres qu'il va y avoir du monde parce que les gars, c'est sûr qu'ils ont pratiqué et qu'ils se sont vraiment organisés pour avoir de quoi d'intéressant à présenter. Donc, comme dirait Valérie dans sa chronique habituelle, supportez vos locaux. Donc, on va terminer l'émission cette semaine avec une petite toune d'aquat qui est aucunement métal. Ceux qui me connaissent savent que je suis un fan aussi de musique traditionnelle québécoise. Puis peu importe la musique traditionnelle, peu importe le pays. Sauf que, justement, en cette fin d'année et en ce début de nouvelle année qui s'annonce, j'ai décidé de finir ça sur une toune, une bonne toune folklorique d'un groupe assez connu là, qui s'appelle La Bottine Souriante. Ça s'appelle La Montagne du Loup. Mais avant, je voudrais juste vous recommander une coupe d'aben parce que je sais que c'est vraiment le moment dans les parties pour jouer de la toune trad québécoise. C'est le moment pour ceux qui n'écoutent jamais, dépendent de leur culture comme la confiture. Donc, je voulais vous recommander une coupe d'aben, dont un des groupes que j'aime vraiment, c'est un des groupes forts tant que moi dans le trad québécois, c'est Le Rêve du Diable, un groupe de Lévis. Qui est sous la houlette de Gervais Lassard depuis 1974. C'est un groupe qui est toujours actif, qui produit vraiment des bons albums. Sérieux, ça vous prend ça dans votre playlist, là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Évidemment, La Bottine Souriante, chose que je pense que tous les Québécois connaissent, La Bottine Souriante. Charbonnier de l'Enfer, Le Curé la Belle, 1755 dans ce qui est plus acadien. Et si vous tripez vraiment le vieux trad, je vous recommande fortement Isidore Soucy puis Jean-Paul Guimond, qui sont deux violonistes québécois. Ça date des années peut-être 1830 à peu près, les enregistrements. Donc, c'est sûr que le son est un peu particulier, mais dans leur style, c'est vraiment des références. Puis je pense que quiconque s'intéresse à la musique traditionnelle québécoise doit connaître ces musiciens-là. Donc, on va se dire sur ça à la semaine prochaine. Puis on termine avec La Bottine Souriante à l'instant.